Bonjour à tous, vous écoutez Cinécast saison 3 épisode 10, salut Thibaut.
Salut Guillaume.
Je t'ai explosé les oreilles là je pense.
Un petit peu oui, je vais diminuer un petit peu le...
Oui, je m'attendais pas à ce que ce soit si fort, mais voilà.
Volume.
Je pense que vous aussi d'ailleurs vous attendez pas à ce que ce soit aussi fort dans votre voiture, dans votre salon, dans votre lit, je ne sais pas où vous écoutez Cinécast et pour être très franc, bah, vous l'écoutez où vous voulez, c'est pas mon problème. J'ai pas envie de savoir non plus vous écouter.
Si, on a envie de savoir.
Peut-être pas quand même.
T'as pas envie de savoir.
Les toilettes, par exemple, j'ai pas spécialement envie de savoir.
Non, mais est-ce que vous nous écoutez plutôt dans le métro ?
Ah !
Sur votre ordinateur ?
Oui.
Où ça ?
Oui, mais ça, on sait.
Que
avec les données analytiques,
quand
on
vous travaillez
partout, on sait...
Que faites-vous ? Dites-nous.
On sait simplement de quel pays vous venez, et majoritairement forcément de la Belgique et de la France, hein, n'est-ce pas ? Vous êtes d'ailleurs nombreux, les Français, à nous écouter, et parfois c'est bien parce qu'on est un peu en avance le planning belge par rapport au planning français, mais parfois c'est pas bien parce qu'on est un peu en retard, donc
c'est
ça dépend des semaines, tout à fait.
C'est comme ça.
Cette semaine, donc l'épisode 10 de la saison 3, on va parler de trois films très différents les uns des autres, avec en tête d'affiche, en premier, La Reine des Neiges 2, Frozen 2, c'est presque 6 ans plus tard, enfin c'est 6 ans plus tard, après le premier du nom, qui était sorti en 2013.
Je me posais la question, parce que j'ai pas vérifié quand était sorti le premier.
2013.
Déjà 6 ans, dit.
6 ans, ils ont attendu.
Ça fait 6 ans
ils ont pris
qu'on
le temps.
Nous emmerde avec Let it go, let it go.
Mais en fait, le problème aussi, c'est que toutes les fillettes de moins de 8 ans, on avait des cartables Frozen pendant tout un temps là. Tu vois, c'était entre 2013 et 2016, 17, même jusque là, hein, jusque 17. T'avais encore des cartables Frozen et des trousses Frozen. Je crois qu'il y a même encore tout ça, quoi.
Mais je suppose que ça va revenir là.
C'est dingue.
Donc pour
c'est...
Noël, les filles vont vouloir leur petit.
Non mais c'est
leur merchandising.
Non, mais quand ils pensent, il y a eu Aladdin chez Disney cette année. On va pas avoir des trousses Aladdin toute l'année, quoi, tu vois.
Non.
Mais Frozen a vraiment bien marché au point que.
C'est le roi lion de cette génération de jeunes
filles. C'est vrai,
c'est vrai. Regarde, on avait tous une housse de lit, enfin une couette, le roi lion.
Hein,
bah ouais, une housse de couette, le roi lion, tout le monde
j'avais
avait ça.
J'avais pas Power Rangers moi aussi.
Ah ouais, voilà.
J'étais chaud là.
Voilà. Les
Cosmo 4.
Les jeunes filles,
Cosmo 4,
elles ont Frozen 2.
Frozen 2, tout à fait.
Et les jeunes garçons, je sais pas ce qu'ils mettent. Les Avengers. Sûrement les
oui,
Marvel,
il y a des chances,
hein,
oui,
comme ça,
Spider-Man,
les
trucs. Oui. Oui. Dites-nous hein, si vous savez en commentaire. Quelle housse avez-vous chez vous ? Et non pas la vieille housse de votre grand-parent que vous avez récupérée avec Donald Duck dessus. Non, 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 ça compte pas.
Ouais.
La vôtre, que vous avez achetée avec votre argent. Donc, ça, c'est La Reine des Neiges 2. Les Misérables, pas du tout le même sujet. Hein. Donc, Les Misérables de Lajli, film français
qui n'a rien à voir avec Victor Hugo. Hein.
Non.
Si c'est le titre.
Oui, c'est ça.
Bien sûr.
Et la provenance.
Oui, la France, enfin... Bon.
Mais non, parce que Victor Hugo, il a écrit Les Misérables, sans doute, dans la même région.
T'as fait une thèse sur Victor Hugo ?
Non, mais j'ai acheté Première, figure-toi. Donc, il parlait de ça dans Première. En tout cas, c'est un clin d'œil. Donc, Les Misérables de Lajli, film français qui est en lice pour représenter la France aux Oscars. Je dis bien en lice parce qu'on ne sait pas encore le classement définitif. On vous parlait d'ailleurs la semaine passée de Nuestras Madres, film belge de César Diaz.
Tu t'es amélioré pour la prononciation.
J'ai réécouté le podcast. Thibaut, là, il faut que je me rattrape parce que bon, il me reproche parfois mon accent et ma prononciation. Prononciation, je peux pas y arriver tout de suite. Accent, on va essayer. Christian Bale. Ça t'aime pas.
Non.
Donc du coup, Les Misérables Lajli, on en va en parler. Et troisième film, c'est Les Éblouis, un film sur des sectes.
Premier film. Sur le. Oui, c'est ça. On va, dire que on va en parler plus longuement, mais globalement, la réalisatrice du film a vécu, a grandi un peu dans une secte.
Dans un milieu avec des bougies et trucs comme ça. Film avec Camille Cotin, donc on en parlera en fin d'épisode. Mais on va tout de suite commencer par la revue de presse. La revue de presse cette semaine, forcément, on commence en parlant de Disney+.
Comme chaque semaine,
mais sauf que là, il vient de sortir, en tout cas aux États-Unis.
Et au Canada et aux Pays-Bas.
Et au Canada et aux Pays-Bas, donc chez nous, niet. Donc beaucoup de gens ont téléchargé illégalement The Mandalorian, hein, c'était un peu attendu.
Présent. J'ai toujours pas regardé, mais oui, je les ai téléchargés. Mais... C'est triste à dire, mais je pense que ça fait clairement partie de la stratégie de Disney. Là, à un moment,
oui, je pense que c'est de la com. Donc, de manière générale, ça a bien marché. Pourquoi ? Parce que en une journée, en 24 heures, la plateforme a compté 10 millions d'abonnés. Donc, si vous partez à 5,99 $ l'abonné, on est presque à 60 millions de dollars en une journée.
Mais,
il y a le mois gratuit. Hein, donc, il ne faut oublier cette technique du mois gratuit. On l'a tous fait sur Netflix avec une carte de crédit. Et puis, hop, à la fin du mois, on oublie d'annuler.
Non, non, voilà, la première fois, j'avais pas oublié.
Voilà, faut mettre des rappels dans le GSM, sinon on oublie, et puis après, paf, ouh, 13 euros.
Non, non, en fait, il faut le faire tout de suite.
Surtout qu'en plus, ce que tu fais, c'est qu'en général, quand tu prends le mois gratuit, tu prends l'offre la plus alléchante avec le Ultra HD, etc. Tu dis, ouais, c'est parti, allez, je paye pas. Et donc, tu prends ça, et puis à la fin du mois, tu te dis, merde, tu reçois un mail avec deux crowns saison 3, mais en fait, t'as oublié d'annuler. Voilà.
Ouais.
Ça sent le vécu, hein.
Oui, oui.
Je suis quand même content d'avoir deux crowns.
C'est pour ça qu'on reçoit toujours des newsletters sur l'adresse du podcast.
Là. D'ailleurs, j'ai fait un avec l'adresse du podcast, oui. C'est formidable. Comme quoi. Donc, Disney+, 10 millions en une journée, pas mal du tout, bravo à eux. Il y a certaines nouveautés aussi sur le service de streaming, notamment un avertissement placé au début de certains films qui peuvent contenir des propos racistes. Donc, c'est un avertissement anti-certain racisme en disant attention, ce film contient des propos.
En gros, c'est un message pour dire que les films reflètent l'époque à laquelle ils ont été faits.
C'est pas notre faute.
Donc, non, c'est pas ça, mais c'est dire que les mœurs, c'est ce qui était peut-être, pas dire acceptable, mais en tout cas toléré, ou qui était acceptable parfois à une certaine époque, ne l'est plus, en tout cas ne correspond plus forcément aux mœurs d'aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est, je pense, c'est une bonne chose de dire voilà, c'est vu sous l'œil de
1950,
des personnes de 1950 par exemple.
D'ailleurs,
comme c'est un peu la même chose que, enfin, c'est selon le même principe que qu'on fait souvent un procès d'intention à une BD comme Tintin au Congo.
Oui.
Maintenant, tout le monde considère ça comme raciste, à raison, mais faut juste se rappeler que voilà, lire cette BD avec les yeux de quelqu'un de 1930 et quelques, ça, c'est quand même pas la même chose. Donc,
c'est clair, et d'ailleurs dans le catalogue Disney, il y a des films des années 50, comme ça, Dumbo, La Belle et le Clochard, ou encore Peter Pan. Je travaille en Flandre, c'est pour
Peter
ça.
Peter Pan.
I
want in Leuven.
C'est ça, je travaille à Leuven. Donc on a Dumbo, La Belle et le Clochard, et Peter Pan, merci. Films des années 50 qui contiennent tous des scènes un peu difficiles, avec des stéréotypes un peu racistes. Notamment, il donne un exemple dans Dumbo, des Afro-Américains pardon, qui montent une tente en sifflant.
Ah oui.
Voilà, des trucs assez gays qu'il faut peut-être pas mettre dans les films d'aujourd'hui.
Et je vois encore ces plans où t'as
voilà.
3-4 marteaux qui vont sur le même piquet et tout.
Exactement. Donc en plus il y a une chanson un peu avec des phrases un peu racistes, attrape cette corde, espèce de singe poilu. Ça c'est une phrase de la chanson. Voilà, donc des phrases qui en 1950 sont alléchantes mais aujourd'hui peuvent te valoir un procès.
Martin Luther King n'était pas encore passé par là.
Non, pas du tout. Donc Disney a raison de faire ça, même si j'espère que bon, pour des films plus intellectuels, enfin les plus matures, je pense par exemple à 12 Years a Slave. On va pas mettre un disclaimer au début du film en disant attention, ce film contient des scènes avec du racisme. T'as là, oui, bon, on a compris, c'est le but du film. Donc,
oui.
Voilà.
Sinon, et puis, c'est pas parce qu'un film parle d'une certaine thématique, reflète certaines choses, que c'est la vision du réalisateur aussi. Hein.
C'est ça.
Il y a certaines choses.
Faut différencier l'homme de l'artiste. Pardon, excusez-moi, on va pas rentrer dans ce sujet-là.
Non, ça n'a rien à voir. Mais...
on en parlait déjà un peu la semaine passée. Changement de sujet, toujours sur Disney+. Il y a forcément la série Mandalorian, on en a un tout petit peu parlé, qui cartonne. Et ils pensent déjà, vous savez.
Ils pensent.
Ça, on renifle déjà les possibilités, les opportunités chez Disney. Et il y a un des dirigeants qui n'écarte pas la possibilité de faire prochainement un film Star Wars de Mandalorian.
Ni oui ni non, bien au contraire.
Oui, mais tu sais en général quand il dit oui ni non, à quoi ça sert de faire une série événement si c'est pour faire un film l'année suivante, si ce n'est une belle stratégie marketing, n'est-ce pas?
S'ils font pas toute une série de films sur ce truc-là, un peu comme ils ont fait avec Rogue One, tu sais, juste un one shot,
oui.
Ça peut être sympa.
Faut voir. Hein. De toute façon,
faut déjà voir à quoi ressemble l'entièreté de la série. Je suppose c'est quoi, une dizaine d'épisodes sans doute. On verra bien. On fera le bilan à ce moment-là.
Oui.
En attendant.
De Mandalorian est donc situé entre la chute de l'Empire et l'émergence du Premier Ordre. Et ce qui est intéressant, c'est que donc il y a de quoi couvrir hein, là. Et ils ont déjà, le clap de la saison 2 a déjà retenti dans les studios.
Ah oui.
Oui, ils sont en train de faire la saison 2.
D'accord.
Donc
okay.
ils sont déjà au taquet quoi. Donc c'est pas un one shot Mandalorian, c'est clairement là pour rester sur Disney+, et c'est leur produit phare en ce moment. Donc, et d'après ce qu'on a déjà pu lire à gauche à droite, la série vaut le coup d'œil si on aime surtout l'univers Star Wars, n'est-ce pas? Et dernière actualité, autre actualité par rapport à des claps, hein, c'est chez nous que ça se passe, plus particulièrement en France, puisque le film Alerte Rouge en Afrique Noire, donc OSS 117 Alerte Rouge en Afrique Noire, a commencé le tournage. Donc c'est Nicolas Bedos qui réalise le film, on en avait parlé très récemment pour son film La Belle Époque. Allez écouter d'ailleurs l'épisode sur La Belle Époque, parce que ce film vaut le détour, hein, Thibaut en avait parlé, et, oui, oui. Et c'est carrément toujours à l'affiche, donc c'est un des films à aller voir cette saison-ci. Nicolas Bedos du coup fait le film, et ça a démarré avec forcément Jean Dujardin et Pierre Niney, toujours au casting, qui vont du coup s'échanger des petites blagounettes à bord de leur vieille voiture ou dans les avions tout clinquant. Oh, 717 quoi,
ça promet.
Ça promet, ça a l'air pas mal. Et voilà, voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'actualité.
Presque.
Presque.
Dernière,
il y a une petite dernière.
Encore qui sur un...
Qui n'est pas une dernière, d'ailleurs.
Non.
Qui est formidable, on va se le dire. On avait parlé de ça parce que Adil et Bilal, avant de faire Bad Boys 3,
ouais,
était pressenti pour faire Le Flic de Beverly Hills 4,
ouais,
aux States. Et maintenant que Eddie Murphy est de retour, mm-hmm, avec Dolomite Is My Name, hein, qui sortira chez nous, je pense, après la Noël, mais qui est prévu pour avant Noël aux États-Unis, puisqu'ils espèrent beaucoup de ce film, notamment un petit Oscar, c'est si possible. Mm-hmm. Maintenant qu'il est de retour et que ça a l'air de fonctionner pour lui, il relance le projet d'un flic de Beverly Hills 4. Et par contre, c'est un gros morceau qui s'est jeté sur le projet, c'est Netflix qui compte distribuer le film sur sa plateforme, en tout cas le produire et le distribuer.
Ouais. C'est quand même, c'est une franchise qui est chez Paramount de base.
Ouais.
Paramount, on en parle encore régulièrement. Hein,
qui va très bien.
Pas toujours top top.
C'est le Titanic là-bas pour l'instant.
Ils ont déjà collaboré plusieurs fois avec Netflix. Il y a souvent des films Paramount qui se retrouvent sur Netflix parce qu'ils savent pas trop comment les vendre. Donc voilà, c'est une collaboration qui roule. Est-ce que ça roule aussi bien que ça pour Paramount? Je sais pas. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Hein.
Bah, c'est sûr que, bon, personnellement, est-ce que toi, t'es intéressé par Le Flic de Beverly Hills 4?
Non.
Moi non plus. C'est vraiment marrant.
Après, on n'est pas la génération pas la de base. Hein.
Non, bien sûr. Et puis bon, y a un public aussi.
Mais si c'est des chouettes films, c'est pas ça, mais c'est pas la franchise que je préfère.
Il y a un public aussi aux États-Unis qui réclame ce genre de film. Hein, je veux dire, Eddie Murphy et tout. Flic de Beverly, c'est quand même un truc assez culturel là-bas.
Ah, bien sûr.
Qui a bien fonctionné, donc on n'est pas dans le même bateau.
Non, non.
Mais voilà, c'était les différentes actualités de cette semaine. Et je propose qu'on passe tout de suite au premier film de la semaine, qui sera le gros morceau de l'épisode, La Reine des Neiges 2. La Reine des Neiges 2, Thibaut, tu l'as vu récemment. C'était bizarre, dans ma phrase, j'ai fait comme si j'allais quelque part, mais en fait, je n'allais nulle part. Voilà, c'était... Je te lance pour voir si t'es bien réveillé.
Oui, de moins en moins, mais ça va, je tiens le coup là.
Alors, La Reine des Neiges 1, très concrètement.
Let it go.
Oui, il y avait ça. Mais c'était l'histoire de deux sœurs, si je ne me trompe pas. Écoute ça, c'était il y a longtemps, 2013.
Alors, le lancement, oui,
2013,
oui, il y avait deux sœurs. J'ai pas revu le film.
Et un mec et un bonhomme de neige. Je rigole.
Ça, c'est du résumé.
J'avais bien aimé, non, honnêtement, j'avais bien aimé le film. Je trouvais que c'était un peu un classique Disney. Tu sais, franchement, l'histoire était un peu bateau. Avec
Alors, attends, c'est Disney en même temps, hein. Oui, c'est jamais des histoires.
Mais tu sais, parfois ils sortent des trucs, enfin des trucs, les associations Disney-Pixar sont parfois un peu plus originales, tu vois, Wall-E,
oui, c'est un peu plus fouillé,
etc.
Oui.
Et là, tu retombes dans un truc assez classique, un peu. C'est ceux qui ont fait le film Réponse, donc Princesse Réponse, qui ont fait ça. Et tu sens clairement que dans la rotation, on est plus dans un truc assez classique, comme tu disais, des chansons, le truc, la petite blonde. On était vraiment dans l'univers Disney.
Ouais.
Et les petits personnages, un peu les sidekicks, comme on dit.
Spécialité de chez Disney, ça.
Oui, tout à fait. Olaf, d'ailleurs, c'était ça le nom du bonhomme de neige.
Il s'appelle toujours comme ça, je te dis.
Sven, c'est ça le nom du.
Le renne.
Du beau gosse. Ah, c'est pas là, le beau gosse, comment Sven, s'appelle c'est alors le... C'est Christophe.
Ah non, c'est Christophe le renne.
Christophe le renne, c'est ça.
Ouais, ouais, c'est ça.
Ok.
Et Sven, c'est le bûcheron.
Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le deuxième, du coup? Parce que le premier, il y avait des pouvoirs. Elle a compris ses pouvoirs. C'était plus ou moins ça, hein, l'histoire du premier. C'est comment est-ce que les grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, n'est-ce pas?
Oui, oncle Ben.
Et dans le deux, qu'est-ce qui se passe?
Écoute, dans le deux, on va comprendre d'où viennent ses pouvoirs.
D'accord, les origines.
Eh oui. C'est un prequel. Non, c'est pas un prequel.
Ah non, tu m'as fait peur pendant deux jours, c'est pas vrai.
Non, c'est pas du tout un prequel. Mais on va comprendre d'où viennent les pouvoirs d'Elsa. Alors en fait, elle est donc devenue reine du royaume. Mm-hmm. Mais il y a des choses un peu bizarres qui se passent. La nature se réveille petit à petit et l'entraîne vers une forêt enchantée. Forêt enchantée qui était l'endroit d'un, d'un rassemblement important entre son grand-père et un autre peuple qui vivait dans cette forêt enchantée. Et donc les gens du royaume et ce peuple se sont battus. Le royaume a été attaqué par ce peuple lors d'une espèce de c'était même pas vraiment de journée de trêve, mais voilà, il y avait une journée de rassemblement pour sceller en quelque sorte une alliance. Et on ne sait pas trop comment ça a dégénéré.
Un Red Wedding version Frozen.
Un petit peu, si tu veux. Et donc, voilà, Elsa va retrouver cette forêt qu'elle ne connaissait que de...
De flash, de mémoire, de...
Oui, plus ou moins de mémoire, parce qu'en fait, son père était un des seuls survivants de cette attaque, de cette fameuse journée. Il était encore tout jeune à l'époque. Et donc, son père lui en a déjà parlé. Mais c'était limite un mythe, en fait.
Oui.
Mais voilà, ce n'est pas un mythe. Cette forêt existe. Il y a eu des choses un peu sombres dans cette forêt.
Et maintenant, le passé revient.
Et le passé revient en quelque sorte. On va dire que Elsa va devoir aller à la recherche de son passé pour comprendre. Bah déjà, dénouer cette histoire entre ce peuple et le royaume. Et puis, comprendre voilà, d'où viennent les pouvoirs dont qu'elle possède.
Est-ce qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce ?
On peut aller.
C'est parti.
Il était une fois... Loin d'ici, au plus haut de la pointe nord, une forêt enchantée.
T'es allé dans une forêt enchantée ?
Oui, c'était un endroit magique. Mais il y a eu un événement tragique. Et depuis, personne n'a pu en sortir et personne n'a pu y entrer.
Waouh ! Papa, cette histoire est incroyable.
Qu'est-ce que je ferais sans toi ?
Je serai toujours là pour toi.
Elsa était un peu bizarre ce soir, non ?
Pas plus que d'habitude.
J'entends une voix.
Une voix ? Comment ça ?
Courez vers la falaise !
Je vais m'envoler !
Non, je suis là !
Arendelle n'est plus en sécurité.
Alors Thibaut, après ce résumé, cette... extrêmement belle bande-annonce, comme toujours chez Disney, c'est calme, c'est posé, ça pète dans tous les sens. On revient à notre critique de Frozen 2, la Reine des Neiges. Était-ce une suite utile, ou en tout cas, avais-tu l'impression, en regardant le film, que c'était tout à fait un plaisir de trouver ces personnages-là, cet univers un peu féerique et enfantin ? Parce que c'est plus enfantin, enfin,
oui.
On en parlait. Hein.
Oui, c'est très enfantin pour un public assez jeune. Et oui, j'ai retrouvé cet univers et ces personnages avec pas mal de plaisir. Je m'attendais pas... J'avais aucune attente particulière par rapport au film. Donc je savais pas trop ce vers quoi ça allait aller. Et je trouve que l'histoire qu'ils ont écrite tient plutôt bien la route. Elle colle avec l'univers. T'as pas l'impression qu'ils ont été écrire une suite qui finalement n'a pas grand-chose à voir et qui colle pas vraiment, tu vois.
Ça s'emboîte bien, quoi.
Ici, voilà, c'est ça. Ils ont fait ça de manière plutôt astucieuse, qui ne laisse pas forcément la... Enfin, en voyant le 2, tu dis pas d'office, ah, il va y avoir un 3, tu vois.
D'accord.
Ça se tient bien comme...
film à part entière.
Comme film à part entière, même si, idéalement, il faut quand même avoir vu le premier, c'est mieux.
Mais ça termine pas sur un cliffhanger avec la suite dans 6 ans.
Non, c'est ça. Donc, personnellement, moi, s'il s'arrête là, c'est très bien. J'espère pas spécialement de suite non plus, hein. Voilà, je trouve qu'ils s'en sont bien sortis au niveau de l'écriture principalement, parce qu'effectivement c'est toujours la chose la plus délicate, hein.
Oui.
Il faut que la suite ait du sens, même si évidemment quand un film a du succès tu penses à faire une suite, mais voilà, il faut que ça ait du sens, et ici je trouve que ça en a plutôt pas mal, donc de ce côté là c'est plutôt bien joué.
Les personnages ont changé par rapport au premier, je suppose. En tout cas, il y a eu un changement, c'est clair, ne fût-ce que dans le premier, puisqu'elle est devenue reine. Est-ce que tu as senti un peu plus de maturité dans l'approche des personnages ? Parce que c'était clairement quelque chose que j'essayais de montrer dans la bande-annonce.
Ouais, complètement. Je trouve que c'est un film plus mature, plus adulte, qui parle de thématiques que les enfants vont comprendre, mais qui parleront peut-être pas mal aux adultes aussi.
Il y a un clin d'œil pour les parents, quoi.
C'est ça, il y a différentes clés de lecture. Mm-hmm. ce qui est plutôt une spécialité de Pixar en général, d'habitude, plutôt Disney. Ouais. Hein, Disney, c'est quand même très premier degré. En général, c'est assez terre à terre. Chez Pixar, en général, ils aiment bien aller un peu plus profondément. Et ici, alors c'est pas au point que Pixar le fait dans ses propres films, mais voilà, j'ai trouvé que c'était plus mature, vraiment. Pour un public adulte, c'est assez agréable de regarder quelque chose comme ça. Mais c'est peut-être un des défauts du coup, c'est que même si c'est plus mature, globalement, c'est très enfantin et hyper prévisible.
Ouais, donc c'est prévisible quoi. Ouais. L'aventure est assez classique, acte 1, acte 2, acte 3 et voilà quoi.
Tu vois tout venir à des kilomètres en tant que... Alors, à nouveau, je le dis, là, je regarde le film comme un adulte.
Et puis, t'en vois beaucoup. Donc, à un moment donné, tu commences à comprendre les films et la construction des films.
C'est ça. T'as tout compris une demi-heure avant que ça se passe, oui, presque. Bah après, voilà, les enfants, ils vont prendre du plaisir. Parce que, justement, ce qui fait que les films Disney fonctionnent aussi bien et ont autant de succès, c'est que ce sont des clés de lecture très, très faciles, très simples à comprendre. Du coup, c'est parfait pour un public d'enfants.
Et ce qui est chouette aussi avec les films Disney, c'est qu'en général, il y a un sentiment de quête ou d'aventure. Est-ce que tu l'as retrouvé dans celui-ci ?
Bah complètement. C'est un peu un film Disney par excellence. C'est ce truc de princesse, de prince, d'aventure, de quête, comme tu dis. C'est le schéma narratif le plus...
Qui aurait pu être un schéma narratif des années 50. Enfin, je veux dire, ça aurait pu... La Reine des Neiges aurait pu très bien être un dessin animé de l'époque, notre époque quand on était jeune ou quand on a grandi, parce que... Ça n'a pas tellement changé, la recette est la même. Quoi.
Bah, la recette elle est la même depuis des centaines d'années. Hein. C'est inspiré d'un conte d'Anderson, je pense, encore. Ouais, Disney, globalement, n'a pas inventé grand-chose.
Non.
Un pur film Disney qui n'est inspiré d'aucun conte, aucun roman, qui n'a pas des masses. Hein. Donc, si, il y a leur truc sans Disney doute. Channel.
Excuse musical, peut-être.
C'est pas leur fort. Mais globalement, Disney n'a rien inventé. Donc oui, c'est des vieilles recettes, mais qui prouvent leur efficacité et qui font que Disney a autant de succès et est la grosse machine que c'est maintenant. Donc c'est très bien comme ça.
Qui dit grosse machine dit forcément produits dérivés, ça c'est sûr, mais ça c'est pas le même sujet. Mais il y a quelque chose qui a marqué forcément le premier Frozen, c'était les chansons qui sont devenues incroyablement connues aussi.
Et qui marque la plupart des films Disney. Hein. Enfin, ouais, c'est une de leurs marques de fabrique.
Let It Go, elle est restée pendant 3 ans. Limite, elle était à la radio, quoi, tu vois.
Ouais.
Je veux dire, ici, est-ce qu'ils ont du coup misé sur les chansons une fois de plus ? Ils se sont dit, bon, ça va tellement bien marcher, il faut qu'on ait de nouveau un Let It Go, il faut qu'on ait une deuxième version avec Coldplay, si possible. est-ce que tu sens qu'ils ont misé sur les chansons aussi ?
Complètement. Il y a au moins deux gros hits, sans doute, qui...
En perspective.
Ouais.
Et merde.
Peut-être une plus que l'autre, mais oui, il y a deux très belles chansons encore dans le film. Elles sont peut-être pas aussi simples que Let It Go, où les paroles et l'air est hyper simple. Et
hyper catchy.
C'est ça. C'est hyper entraînant, direct. T'as compris attiré par secondes, le truc. Ouais. Et du coup, ce qui fait que beaucoup de gens ont eu marre de cette chanson. on est dans un truc un peu plus... un peu plus pas complexe non plus, mais voilà, un peu moins simple en tout cas.
C'est ça. Le refrain n'est pas tatatin, tatatin.
Non.
Un peu compliqué.
Non, c'est un peu comme dans... On se rapproche plus des chansons comme dans Moana par exemple. Enfin, dans Vaiana, il y avait aussi une super chanson qui n'était pas aussi simple, en tout cas simpliste dans sa structure et dans ses notes, etc. Enfin voilà, Il y a de très belles chansons dans le film, comme Disney sait si bien le faire.
Que tu as vu en anglais. Hein,
que j'ai vu en anglais.
Donc tu n'as pas la version avec Danny Boone.
Non.
Ça donnait quelque chose, ça, quand même.
Ouais. Mais, petit bémol, je trouve qu'il y a trop de chansons.
Il y a trop de chansons.
Ouais, à un moment, tu satures un petit peu. Ouais, bon, les gars, on va peut-être un petit peu avancer dans le film et pas juste faire une chanson toutes les deux minutes. Parce qu'au début du film, c'est vraiment
c'est tout un temps, saut. Quoi.
Okay. C'est vraiment beaucoup trop souvent. Et c'est là, bon les gars.
Il démarre directement avec des chansons.
C'est le temps d'avancer un petit peu là, leur avance.
C'est ça, le setup est un peu long à cause des chansons.
Ouais.
Bah, ou grâce. Si vous aimez les chansons, forcément vous serez servi. Donc si on résume ton avis, Thibaut, sur le film, c'est un peu plus mature, un peu plus adulte. Mais bon, ça reste un film tout à fait pour les enfants avec une histoire assez classique, A, B, C quoi.
Ouais.
Y a beaucoup de chansons, un peu trop. Mais il y a deux trois très bonnes chansons et donc ça reste quand même une belle suite mine de rien. Mais,
très honnêtement, je préfère le deuxième au premier.
Ah carrément.
Ouais.
D'accord.
Ça m'a plus parlé.
C'est rare. Voilà. Mais écoute, du coup, combien tu lui donnes à Frozen 2?
Bah un bon 2 étoiles. Un bon 2. Pour les enfants, c'est peut-être carrément du 3 étoiles.
Oui.
Mais voilà, moi de mon regard adulte, je veux dire un chouette 2. Mais franchement, c'est une très bonne suite. De toute façon, les parents avec les enfants, ils vont d'office y aller parce que les enfants vont vouloir le voir. Donc, allez-y.
Allez-y, Alonso. 2 étoiles pour Frozen 2. Je propose qu'on ne perde pas de temps et qu'on enchaîne avec le deuxième film de la semaine.
Parce qu'on n'avait pas trop d'idées.
Bah, c'est pas ça, mais c'est concrètement, on ne va pas faire la filmographie de la réalisatrice de Frozen, puisque ce sera vite fait, vu qu'elle a fait que Frozen 1. on va pas parler des voix françaises de Danny Boone au cinéma. Ça me paraît compliqué aussi. Donc,
moins on parle de Danny Boone, mieux je me porte.
Ah. On va bientôt en reparler, t'inquiète pas. Il n'a pas dit son dernier mot, Dani. Parlons tout de suite alors du coup du film français de la semaine. Enfin, il y en a deux, hein, les deux suivants.
Oui, mais c'est le film français de la semaine.
C'est le film français de la semaine. Pourquoi ? Ça s'appelle Les Misérables. Vous avez sans doute entendu parler de ce film dans la presse française, si vous êtes de France. Pourquoi ? Parce que c'est un film qui est passé en compétition à Cannes, donc en mai dernier. C'est d'ailleurs là que tu l'as vu.
Oui.
Film qui a fait un peu bousculer la critique, oui. Pourquoi ? Parce que c'est un film inspiré, un enfant de la haine. Clairement, peut-être pas inspiré, mais en tout cas un enfant de la haine, puisqu'on nous parle de violences policières, on nous parle de du quotidien des policiers dans les cités, et également du quotidien des cités face aux policiers. Il y a les deux perspectives.
Ouais.
Et c'est l'histoire, en gros, d'un garçon qui filme une bavure policière avec son drone. Hein.
C'est ça.
Alors, dans la vraie vie, c'était pas avec un drone, mais quoi qu'il arrive, voilà, un peu de fantaisie.
C'est quelque chose qui est arrivé à Lajli. Il a effectivement été témoin, il a filmé une bavure policière un jour dans les débuts, milieu des années 2000, 2005, 2000. Un peu après, je pense, après les émeutes des banlieues en 2005. Mais il s'est inspiré de sa propre expérience.
Et il a amené cette vidéo à Courtrajmé et ils ont demandé qu'est-ce qu'ils allaient faire avec ça. Et ils l'ont publié sur Rue 69, c'est ça le site d'information
Rue 89, pardon.
Ils l'ont publié sur ce site-là et c'est là que ça a fait un peu un buzz à l'époque.
Ouais.
Sa petite vidéo.
Et
comme quoi, avec une petite vidéo, on peut aller très loin. Et aujourd'hui, il a réalisé donc ce film. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Et après ça, il y aura aussi un extrait de l'interview que tu as fait avec Lajli.
Exactement.
La bande-annonce.
J'en appelle à votre esprit d'équipe. La cohésion. Sans cohésion, pas d'équipe. Et sans équipe, on est seul.
T'as pas choisi la bonne équipe, mon pote.
Contrôle de police. Vous faites quoi, là ?
On attend le bus.
Vous attendez le bus, là ? Ça sent le shit, ça ?
Eh, c'est bon, on se met.
Ça va, je gère.
Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça.
Arrête de filmer.
Non.
T'es contente, là ?
Ici, c'est notre vie. Toi, tu débarques, nous, ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter.
Eh les gars, soleil.
Ceux qui te respectent, une parme. Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout.
C'est quoi les chats ? Quand t'as volé un lion ?
Ouais.
Mets la pression sur les petits, faut qu'on retrouve le lion.
Alors Thibaut, ce film aussi se passe dans un contexte très 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 récent et douloureux pour nous les Belges. Pourquoi ? Parce que ça se passe juste après la victoire de la France à la Coupe du Monde 2018. Non, s'il vous plaît, n'en parlez pas dans les commentaires, merci, c'est gentil.
C'est vrai. Je me souviens, à Cannes, le film a commencé, j'ai regardé mon voisin et je lui ai fait « Franchement, ce film commence très mal. »
Heureusement que c'est pas genre les Français ont gagné contre les Belges en demi-finale.
Non, c'est la Coupe du Monde.
Ouais. C'est encore pire. La finale. La deuxième étoile.
Ouais. Par contre, plus tard dans le film, on voit il y a des mômes qui jouent au foot. Il y en a un qui avait quand même le plus beau maillot de la dernière Coupe du Monde. Donc ça allait. Ça m'a un peu réchauffé le cœur.
Ça aide. C'était le maillot quoi, russe ?
Oui.
Il était bien.
C'était le maillot de la Belgique.
Ah, forcément. Lequel ? Le jaune ou le rouge ?
Bah, le rouge.
Ah, le jaune était classe quand même. Hein.
Le jaune était classe.
Ouais, tu vois.
Mais le rouge, c'était mieux.
Bah, c'est le mauvais belge. Mais l'autre, il est jaune. Soit. C'était très bien. On a tout compris, en fait, avec cette ouverture de film. Hein. On part sur la deuxième étoile de la France, la fierté de la France, la France qui célèbre. Et puis après, on bifurque sur les cités, quoi. Donc, on montre le contraste assez marrant, celui qui est imposé par le foot, finalement.
Oui, enfin bon, c'est pas l'apocalypse, hein, la banlieue non plus.
Mais non, mais bon, tu sais, l'équipe de France, on a souvent été critiqué parce que c'est souvent des gens aussi issus de la banlieue. Et ils sont là comme ça, vénérés comme des stars de foot avec leur deuxième étoile. Et les gens qui vivent dans la banlieue au quotidien ne sont pas élevés au même rang dans la société française, n'est-ce pas ?
Certes.
Voilà, donc c'est là qu'est le parallèle entre les deux. De quoi parle ce film très concrètement ? J'ai cru comprendre qu'il partait du point de vue de la police. Et ça, c'est assez rare parce que d'habitude, on va se concentrer sur vraiment les gens de la banlieue, sans parler de la police.
C'est ça. Alors, il y a plusieurs points de vue dans le film, mais globalement, le point de vue principal, c'est celui de la police, effectivement, qui est déjà une police un peu particulière, dans le sens où... Mais déjà, elle circule pas dans un véhicule de la police.
Classique, ouais.
Ils sont pas habillés en flic avec la casquette, le truc. Non, ils sont en jean t-shirt comme toi et moi, quoi. Enfin, sauf que toi, tu vas peut-être au boulot en chemise. Mais voilà, eux, ils sont pépères.
En couverture.
C'est ça.
En civil, quoi.
Parce que, oui, en civil. Parce que c'est une police de proximité qui fait face à une autre réalité que la police, je vais pas dire normale, hein, parce que ça reste des policiers, mais voilà, c'est, leur façon de procéder est un peu différente, parce que la population n'est pas la même, parce que les conditions de vie ne sont pas les mêmes, parce que voilà, il faut garder un certain
proximité,
une certaine proximité et une certaine harmonie, si je puis dire, dans la vie de tous les jours de la banlieue. Il faut garder l'ordre, bien sûr, mais c'est pas en venant avec...
ta grosse bagnole et ta matraque, quoi.
C'est ça, c'est pas comme ça que ça se fait.
Non, il faut s'intégrer, il faut connaître les gens, il faut discuter avec les gens, et c'est comme ça, finalement, qu'on va t'accepter.
Bah, c'est un travail de proximité. Tout à fait. Donc, effectivement, le flic, tu vas voir, il va aller parler à à la personne qui s'appelle le maire, qui est juste un mec qui a un peu de pouvoir dans la banlieue... certainement deal aussi un peu, enfin voilà,
fait gonfler les pecs dans la banlieue, quoi.
Voilà, c'est ça. Tu dois aller voir des gens que tu sais ne sont pas forcément irréprochables,
c'est ça.
Et tu dois leur parler, enfin tu dois collaborer avec eux, en fait, c'est ça. Donc c'est vraiment une question d'équilibre, de balance, de d'ambiance à garder la plus sereine possible. Et en fait, en tant que spectateur, on découvre cela au travers des yeux de Stéphane, qui est un flic qui débarque vraiment dans cette banlieue parisienne, dans le 9-3, comme on dit, hein, à Montfermeil, là d'où est originaire Lajli, en fait. Hein.
Oui.
Et donc, comme ça, on s'implique, on voit toute cette histoire d'un œil neuf.
Tout à fait, on est dans les chaussures du nouveau flic, quoi, en fait.
C'est ça.
D'accord. Donc c'est un moyen pour non c'est ça, donc c'est un moyen pour nous de rentrer là-dedans et de découvrir ce monde-là. Comme tu disais, il y a le mec qui se fait appeler le maire, etc. Mais venons-en à un des moments clés du film, je suppose, c'est la bavure policière qui se passe, qui est filmée. Est-ce que du coup le film parle de ça, ou elle parle plutôt alors vraiment de la brigade anti-criminalité, de quel est le sujet principal du film, ou en tout cas quel est vraiment l'arc? Est-ce qu'on va voir les flics dans de mauvais états après, enfin
c'est un tout,
la confiance brisée, je suppose.
Ouais, c'est un tout, parce qu'en fait la bavure part d'une connerie de gosses de la banlieue qui ont été volés un lionceau à un cirque. De
c'est une belle connerie,
un cirque de gitans qui est de passage, tu vois. Et c'est la totale. Les gitans, c'est la guerre des Lopez. Hein. Okay. Tu te souviens de ça ?
Oui, oui. Oui, je me rappelle.
C'est exactement ça. Bref, les gosses font une connerie qui n'est pas très intelligente, on va pas se mentir, mais qui ne justifie en rien ce qui se passe après. Parce que les flics... En fait, ils vont servir d'intermédiaire, en quelque sorte. Ils doivent pas vexer tout le monde dans la banlieue, donc le maire, etc. Ils doivent garder l'ordre, donc ils doivent retrouver le lionceau. Enfin bref, voilà, il faut qu'ils remettent les choses à leur place. Et lorsqu'ils vont essayer d'interpeller les enfants. Ça va un peu dégénérer, il y a un coup qui va partir, je dis pas si c'est physique, si c'est d'une arme à feu ou autre. Mais voilà, ils vont se retrouver dans une position inconfortable qui a été filmée par ce drone. Pour ma part, je ne considère pas que la bavure policière est le sujet principal du film. C'est ce qui fait que tout...
Un tournant,
bien sûr. C'est un tournant, c'est ce qui fait que tout bascule. Mais je trouve que le film est plus général que ça. C'est vraiment un portrait de ce qu'est la banlieue en vérité. Et pas juste montrer ce visage qu'on voit souvent avec la drogue, les guetteurs.
Oui, c'est ça.
Tu vois le bazar.
Comme tu en parles, là, ça a l'air d'être tout à fait différent. Ça a l'air beaucoup plus, je ne vais pas dire positif, mais en tout cas, il n'y a pas ces clichés qu'on va dire sur la banlieue qui sont représentés actuellement, en tout cas, quand je vois ça.
C'est ça. C'est, en tout cas, ces clichés, pour certains, sont un peu présents, mais plus atténués, parce qu'effectivement, la banlieue, ce n'est pas que ça. Et alors, je parle comme si je venais de la banlieue, mais non.
Non, mais par exemple, tu vois, dans les banlieues,
j'ai pas une certaine légitimité de savoir ce que c'est exactement la banlieue, parce que je n'ai jamais grandi dans une banlieue, jamais vécu dans une banlieue. Mais voilà, je pense que le portrait que Ladjli en fait est un portrait plus réaliste, sans doute, et pas aussi alarmiste que certains peuvent le faire.
Pas ça, mais je suppose que des fois, dans les films de banlieue, parfois, t'as que des jeunes en cagoule. Alors que très concrètement, dans la banlieue, il y a aussi des familles, il y a des gens. Il y a pas que des immigrés, il y a un peu tout, quoi. Et donc, c'est des gens qui sont tous dans la même situation, qui roulent pas sur l'os, c'est clair, et qui doivent se serrer les coudes, quoi.
C'est ça. C'est exactement ça. Et je pense que c'était pour ça. C'est pour ça que c'était aussi important pour Ladjli de faire un film comme celui-là.
Oui.
C'est-à-dire de restaurer une image un peu plus qui colle plus à la réalité que celle qu'on s'en fait. Donc voilà, pour moi, la bavure policière n'est pas le sujet principal. C'est un sujet très important du film, évidemment, hein, parce que, comme je le disais,
ça fait avancer le
récit. Ladjli a été témoin lui-même d'une bavure qui a été très médiatisée suite à sa vidéo, notamment. Dans le contexte actuel des violences policières en France, forcément, c'est quelque chose qui est très parlant.
On ne pardonne pas, oui.
Donc voilà, non, c'est un sujet hyper important du film, mais je considère pas ça comme le sujet principal, en tout cas.
Autre chose qui a été longuement soulignée dans la presse, c'est outre les flics qui sont joués par Damien Bonnard et Alexis Manenti, c'est ça ?
Oui, alors Damien Bonnard fait le nouveau flic. D'accord. Alexis Manenti, qui a aussi participé à l'écriture du scénario, joue le flic le plus costaud du duo de base. Okay. Hein, parce que
Damien Bonnard... Celui qui a déjà vécu là-bas, quoi.
Ouais. En fait, Damien Bonnard, Stéphane, le personnage joué par Damien Bonnard, rejoint... un duo en fait, donc constitué notamment d'Alexis Manenti et de Djibril Zonga aussi, qui joue un flic black qui vit, qui a grandi dans cette banlieue. Donc, il joue aussi un personnage qui est aussi dans une espèce d'entre-deux, forcément. Il est flic, mais il vient de là. Donc, voilà, il y a quelque chose d'assez intéressant avec ce personnage.
Et une dernière chose, avant qu'on écoute Ladjli, il y a aussi quelque chose qui est assez montré du doigt dans le film. En tout cas, beaucoup de gens en parlent, c'est le casting d'enfants. Il y a pas mal de jeunes, nouveaux venus, du coup, hein, pour la plupart d'entre eux, on n'a pas Vincent Lacoste.
Non.
Mais donc, clairement, c'est des gens de la cité, entre autres, qui sont là. Mention spéciale pour eux
Tout le casting, de manière générale, effectivement, les mômes, les jeunes sont vraiment très, très bien. Avec beaucoup de... assez spontané, très naturel dans leur réaction, dans leur façon de faire. Donc c'est vraiment chouette de voir un casting d'enfants aussi bon. Et les flics sont vraiment au top. D'ailleurs, Alexis Manenti et Djibril Zonga sont, on en a parlé la semaine dernière, nommés, enfin en tout cas dans la liste des pré-nommés pour le César du meilleur espoir. Donc ça, c'est assez... c'est vachement cool et complètement mérité, quoi.
On s'écoute un extrait d'interview avec Ladjli.
Allez, on écoute.
Le point de départ de ce film, c'est cette bavure que j'ai filmée en 2008.
C'est évidemment pas le vrai sujet. Enfin, si, c'est une partie du sujet, mais il n'y a pas que ça.
Après, comme j'ai dit, moi, c'est surtout un témoignage que j'ai voulu apporter sur ces 10, voire ces 15 dernières années. Ce film, c'est un film qui est personnel. C'est un film qui raconte ma vie, qui raconte mes histoires, qui raconte les histoires des habitants. Donc, c'est ça. C'est surtout un témoignage qu'on a voulu apporter. On parle souvent des quartiers à travers les médias, à travers les politiques, mais très peu de gens ne connaissent la réalité du terrain. Et il y a un fossé énorme entre ce que les politiques racontent, les médias, et la réalité du terrain. Donc moi, pour moi, c'était important de quelque part recadrer les choses et de se dire, OK, ce que vous entendez, c'est on est souvent dans les stigmatismes, on est souvent dans les stéréotypes, et que la réalité, elle est différente. Donc moi, c'était important d'apporter, en tout cas, d'éclaircir tout ça et de se dire, voilà, la réalité du terrain, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Et on n'est pas là à inventer les choses. Nous, le scénario, tout est inspiré d'histoires réelles.
Ouais.
Après, ça reste du cinéma, mais au cinéma, en tout cas, il s'inspire de la vie que je vis, de la vie des gens autour de nous. Et on essaie de raconter des histoires justes, sans prendre parti, sans porter de jugement. Et c'est important.
Donc Thibaut, là, j'y en parlais. Son but à lui, c'était vraiment de montrer un autre regard sur la cité. Toi, c'était aussi un des plus gros points forts du film que tu trouves. C'est vraiment un regard rafraîchissant.
Ouais.
Et nécessaire, d'ailleurs. On parlait du casting juste avant son intervention, qui pour toi est incroyable de toutes parts, et notamment des acteurs qui sont déjà dans la liste de présélection pour les Césars. Donc, à regarder attentivement. La mise en scène, on en avait un tout petit peu parlé. Toi, quel était ton point de vue sur la mise en scène ?
Bah pour moi, c'est un des gros points forts du film. Parce que c'est attractif, c'est attrayant, c'est fort. Tout s'imbrique bien, toutes les pièces se mettent bien. Tout ce que la Jli fait a du sens, a une signification. Il n'y a rien qui est gratuit. Tu vois vraiment qu'il essaye d'être le plus juste et le plus réaliste possible dans ce qu'il fait, dans ce qu'il raconte, de comment il raconte tout ça. Donc vraiment, pour la mise en scène était vraiment un des gros points forts du film, grâce notamment au casting. Effectivement, tu vois que c'est un très bon directeur d'acteur, donc voilà, c'est un talent à suivre, et le fait qu'il représente la France aux Oscars va être un bon coup de boost, j'espère, parce que monter ce film était très compliqué, alors qu'il avait été nommé deux fois au César auparavant.
Oui, c'était un court-métrage.
Avec le court-métrage Des Misérables, et aussi avec un autre court-métrage documentaire. Je veux dire, le gars a déjà eu deux nominations au César, et malgré ça, ça n'a pas aidé pour monter le film. Donc c'était très compliqué. Et là, espérons qu'enfin, avec le prix à Cannes, avec le fait qu'il représente la France aux Oscars, espérons que ça lui donne un bon coup de boost qu'il ne serait que mérité.
Tu penses qu'il va y aller, toi, aux Oscars ?
Dans les cinq derniers ?
Mmh.
Difficile à dire. J'ai tendance à dire que non, mais à penser que non. Mais on ne sait jamais.
Mais avec
les Américains, parce qu'il y a quand même un truc un peu
oui.
Qui risque d'aimer, hein, dans ce
l'Europe, cas. L'Europe difficile, c'est quand même un sujet qu'ils aiment bien. Hein.
Les flics, je pense que ça peut leur plaire. Donc on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais j'aurais tendance à dire que non de base. Voilà.
Ok, combien tu lui donnes ?
Un excellent 3 étoiles.
3 étoiles pour Les Misérables, à l'heure actuelle, c'est le film de la semaine. Hein, devant La Reine des Neiges 2. Mais
très clairement.
Il reste encore un film.
Oui.
C'est pas fini. Un film qui s'appelle Les Éblouis. Premier film, tu l'avais dit en intro de cet épisode, de Sarah Succo, réalisatrice du coup française, qui nous fait un film avec notamment Camille Cotin et Jean-Pierre Darroussin. De quoi parle ce film ? C'est un drame, donc on n'est pas dans une comédie, parce que Camille Cotin pourrait croire, mais non.
Non, là,
Exit 10%, c'est
elle,
fini.
Elle ne va pas rigoler des masses ici.
C'est ça. Enfin, je dis que c'est fini. Ils font la saison 4, hein, mais après, c'est niette. Donc, Camille, décidément.
Oui,
il y a un truc qui ne va pas là.
C'est Camille, le personnage principal.
Qui est passionnée de cirque. Elle est née d'une famille nombreuse. Un jour, ses parents intriguent une communauté religieuse basée sur le partage et la solidarité.
Attends, ses parents quoi ?
Intègrent.
Ah, merci.
C'est grave. Hein.
Bah, ouais. Oh,
chaque fois que j'ai SMC, ça ne va pas. Bon.
Je vais changer de partenaire. Hein.
Intègre une communauté aussi religieuse basée sur le partage et la solidarité dans laquelle ils s'investissent pleinement. Je vais aller doucement, comme ça je suis sûr que c'est bon.
On voit que c'est fin de journée là.
Non, ça va. La jeune fille doit accepter un mode de vie qui remet en question ses envies et ses propres tourments.
Je vous promets, restez à l'écoute, on va arriver à la fin de ce synopsis, ne vous inquiétez pas.
Si vous êtes toujours là. Peu à peu, l'embrigadement devient sectaire. Voilà, je vais m'arrêter là. Camille va devoir se battre pour affirmer sa liberté et sauver ses frères et sœurs. Donc, clairement...
Wow, c'est beau.
On parle d'intégration dans une secte, mais on parle aussi d'échappatoire d'une secte, hein, puisque sauver frères et sœurs, on se doute bien qu'il va falloir retourner à la normale.
Ouais.
À un moment donné.
Comme je disais en intro, en fait, la réalisatrice Sarah Succo a elle-même vécu une partie de sa vie dans une secte. Et donc, forcément, c'est un sujet... qui la touche particulièrement. Et je pense que c'est un des points forts du film, c'est que ça parle effectivement de quelque chose de fort dont on ne parle pas souvent au cinéma, finalement. on a déjà vu des dizaines de reportages sur diverses sectes qui existent, hein.
Oui.
Raël, etc. Enfin bref.
Il y a eu un reportage sur les francs-maçons. Enfin, des reportages, il y en a plein.
Les francs-maçons. Pourquoi tu parles des francs-maçons?
Bah, parce que c'est la plus grande secte de Belgique.
Secte, oui. Les francs-maçons, c'est pas vraiment.
Organisation secrète, en tout cas.
Oui, c'est pas une secte. Hein.
Même s'ils portent des bagues. Mais bon, soit ça n'a rien à voir.
Non, effectivement. Non.
Non, il n'y a pas eu de film là-dessus. Ok.
Bon. Sur les francs-maçons, sans doute, mais je sais pas.
Ça m'intéresse de savoir localement comment est-ce qu'on aurait pu faire ça.
Oui. Je trouve pas que ce soit une secte, donc je trouve ça
un strip-tease. Curieux. À partir du moment où tu te réunis dans des lieux pas publics. Et ouais, que tu n'es pas publiquement membre de quelque chose et que tu as des réunions secrètes qui s'appellent les je sais pas quoi.
C'est pas la Scientologie non plus où tu dois payer des centaines et d'euros.
Il faut quand même payer 70 euros pour la boue de fin d'année.
Non, je pense qu'on est quand même pas du tout dans le même, même registre.
Peut-être pas en tout cas le même que celui des éblouis. Est-ce qu'on s'écouterait pas un extrait de la bande-annonce ?
Faisons ça.
Vous faites partie de la communauté de la colombe, c'est ça ?
Oui.
Et en quoi ça consiste exactement ?
On mène des actions sociales pour les plus démunis du quartier.
Ça doit être spé, non ?
Un peu. On propose d'être leur comptable.
Maman ?
Je m'inquiète pour maman.
Bah, tu pries pour elle ? Saint-Esprit l'aide à guérir.
T'y crois, toi ?
Ça se passe bien dans ton couvent ? Tu connais rien à ma vie, alors ferme-la.
Mais tu vas te calmer, Mère Teresa. Va rejoindre tes moines.
Pauvre fille.
Je vous cache pas que l'attitude violente qu'a eue votre fille, ça me préoccupe.
On va prier sur elle.
Jésus, fais que les parents ne rentrent plus jamais.
Et Mathieu a ne plus puer du cul.
Tu vois pas dans quel état ils te mettent ?
Tu arrêtes maintenant !
Lâche-moi, toi !
Alors, on revient toujours à nos histoires de sectes.
Oui.
Et on sort de la tangente franc-maçon. C'est vrai que tu as raison, tu le disais pendant la coupure bande-annonce. C'est pas vraiment une secte. Une secte, c'est une organisation un peu plus mystique que ça.
Et plus pernicieuse.
C'est ça, avec vraiment un objectif, un gourou, etc. On n'est pas du tout dans la même optique. Même si ça reste mystérieux pour nous, comme un des mortels.
Ouais.
Les éblouis, du coup, revenons à notre sujet. Premier film avec une thématique assez intrigante, assez importante, mais il faut en faire un film, quoi.
Ouais. Mais effectivement, c'est assez compliqué et je trouve que c'est, enfin, comment dire, je trouve qu'elle a pas choisi la voie de la facilité dans le sens où la secte dont il est question ici, en fait, c'est une communauté chrétienne.
Oula.
Donc on n'est pas.
C'est pas l'extrême non plus, quoi. On n'est pas dans un truc bizarre ou.
Ben c'est une communauté qui est un peu extrême dans certains sens, que je vais sans doute aborder, mais je trouve que c'est assez dangereux de prendre ça comme exemple de secte en tout cas, parce qu'on n'est pas dans les trucs un peu plus habituels comme je disais Raël, etc. Je connais plus le nom de toutes les sectes un peu connues, mais
non, mais elle aurait pu inventer une secte aussi, tu vois,
c'est ça,
obligé de prendre une vraie,
voilà, c'est ça. Et je sais pas si c'est un lapsus ou pas, mais mais voilà, elle prend donc une communauté qui fait partie de l'Église catholique. Ce qui est...
Bah, tu rattaches à une religion, c'est ça.
C'est ça, on va pas faire un grand débat sur les religions, mais je trouve ça un peu dangereux. Je dis pas que c'est mal vu, hein, que c'est pas bien choisi, mais voilà, je trouve ça un peu dangereux. Parce que en fait, il est question ici d'une famille qui va se rapprocher d'une communauté locale. Parce qu'ils veulent se rapprocher de leurs valeurs, donner un peu de sens à ce qu'ils font.
Mais à la base.
Pas tant que ça, pas spécialement. Okay. Si, je veux dire, sans doute traditionnellement, hein, comme je pense que la plupart des gens ont été baptisés. Ou voilà,
oui,
tu vois.
Bon, tu sais, il y a baptisé, il y a pratiquant.
Oui, c'est ça. Oui, mais c'est ce que je dis. Oui. C'est que c'est des gens qui le sont peut-être traditionnellement, mais qui ne le sont pas. Dans les faits, en fait.
Pas fond dedans, quoi, oui.
Voilà, et donc, en voulant vouloir donner un peu de sens à leur vie, à leurs valeurs, ils veulent faire un peu d'associatif, s'impliquer un peu dans la communauté locale. Et là, quand je dis communauté locale, je parle vraiment de la vie de la localité.
Oui.
Je parle pas de la communauté chrétienne en tant que telle, qu'ils vont rejoindre par la suite. Mais voilà... tout cela faisant son chemin avec les rencontres, Au début, tu vas à un repas partagé, et puis tu, nous lis des liens avec les gens de cette communauté.
Des recommandations de lecture, etc.
Oui, c'est un peu l'idée, c'est ça. Okay. Et petit à petit, tu te remets à prier, à redonner plus d'importance à ceux qui n'en avaient peut-être pas dans ta vie. Ce qui, dans l'absolu, n'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. Je pense que...
Non.
Y a certaines,
la foi n'est pas négative.
Voilà, c'est ça. Avoir certaines valeurs, certaines traditions n'est pas forcément quelque chose de mal. Mais c'est à un point tel que ça prend de plus en plus d'importance qu'ils vont quitter leur appartement pour rejoindre vivre dans la communauté. Parce que ce n'est pas juste une salle dans laquelle ils se retrouvent. Et, hein. Non, non, il y a des gens qui font des vœux, hein, qui ont une vie presque monastique, si je puis dire. C'est vraiment une communauté un peu forte. Hein,
d'accord, oui.
Et qui entrave certaines libertés. Par exemple, la mère de famille, jouée par Camille Cotin, ne peut plus appeler ses parents au téléphone, par exemple. Un moment, au milieu du film, ils sont chez eux, parce que ils n'ont pas vendu leur appartement tout de suite. Mmh. Ils sont chez eux pour fêter l'anniversaire de Camille, enfin de la jeune Camille, qui est donc le personnage du film. Il y a un de ses amis qui l'a rejoint et il a un t-shirt noir et lui dit, la mère dit tout de suite tu peux pas rentrer dans la pièce avec ce t-shirt noir parce que le noir c'est la couleur du diable. Et le père, l'air de rien, dit juste je vais chercher un pull, voilà. Et donc il lui apporte un pull qui est beige, gris, je sais pas, peu importe, mais
pas du noir, quoi.
Voilà. Oui. Voilà, c'est ce genre de choses. Petit à petit,
c'est des trucs qui socialement sont pas facilement acceptables, parce que du coup tu te dis, mais qu'est-ce que t'as, toi, t'es
fou, quoi. Elle a le droit de penser que le noir est la couleur du diable si elle veut.
Bien sûr.
Mais
bon, dans le commun des mortels, quand quelqu'un dit ça quand tu rentres chez toi, c'est quand même bizarre. Quoi, tu
vois. Voilà, c'est ça.
C'est mal vu.
Et certaines personnes de l'entourage commencent un petit peu à être alertées, dont les parents notamment, enfin les grands-parents.
Oui. Oui.
Mais voilà, c'est un cheminement qui est compliqué jusqu'à l'issue finale. Voilà.
Ok, donc intéressant. Enfin, je veux dire, ça pourrait laisser place à du suspense, mais c'est pas le cas du film. Ici, on est vraiment dans du drame. On n'est pas dans
un truc bizarre, glauque. C'est pas un thriller. On est dans un drame pur.
D'accord.
Qui est effectivement assez intéressant dans l'absolu. Je trouve que c'est un sujet casse-gueule qu'il est pas facile du tout d'aborder. Et elle s'en sort assez bien à ce niveau-là. Franchement, après, c'est une partie de son expérience personnelle. Et elle disait même en interview, ou en tout cas, c'est peut-être Jean-Pierre Darroussin qui le répétait, lui, en interview, comme quoi, en tout cas, d'après Sarah Succo, la réalisatrice, son film est moins violent que ce que la réalité peut être en vérité.
Oui.
Voilà.
Bah oui, on a tous entendu parler d'attouchement, etc., dans des sectes ou quoi, donc ça aurait pu aller dans cette direction-là aussi. Je ne sais pas si je suis mal là-dedans, mais peut-être pas laisser...
J'ai envie de dire surprise, comme si c'était... mais non.
On laisse en tout cas, on vous laisse découvrir ça au cinéma. Bon, thématique importante, démarrage fort du coup, parce que c'est intriguant quand un film qui démarre comme ça avec oh tiens, tu peux pas rentrer, t'as un pull noir et tout, où est-ce qu'on va aller avec ce truc?
Mais là, c'est déjà truc-là, c'est déjà plus loin dans le film.
Quand même, la question, c'est jusqu'où on va aller avec cette histoire. Est-ce que ça tient ou est-ce qu'à un moment donné, on se dit ça devient un peu plateau?
Malheureusement, il y a un passage à vide à un moment, c'est-à-dire que le film démarre assez vite dans le cœur du sujet. Ce qui est bien, parce qu'au moins tu passes pas 20-30 minutes à dire « Ah, ok, en fait, c'est de ça que ça va parler. »
C'est ça.
Non, non, après un quart d'heure, tu comprends déjà que les liens qui commencent à nouer avec la communauté deviennent de plus en plus forts.
Et qui vont aller dedans, quoi.
Et voilà, en gros, tu le comprends assez vite. Et effectivement, je trouve ça très bien. Le truc, c'est qu'après, il y a une certaine gradation dans la démarche. Hein, parce que, voilà, retrouver... Je le disais, a priori, retrouver certaines valeurs, ou en tout cas être plus en cohérence avec ces valeurs, c'est plutôt une bonne chose. Hein. C'est pas forcément quelque chose de négatif à la base, de loin de là. Mais voilà, il y a une certaine gradation, ça va aller de plus en plus loin. Et c'est ça qui, je trouve, prend beaucoup de temps. Et du coup, ça donne un petit passage à vide. À un moment, tu dis, oui, j'ai compris. Et je trouve que ça reste à un certain moment trop longtemps au même niveau, il n'y a plus vraiment d'évolution et tu te dis bon ok, là, il faut qu'il fasse quelque chose. Que, okay. Peu importe qui, hein, mais voilà, il faut qu'il y ait quelque chose qui se débloque dans le film. Et je trouve que ça met un peu de temps à arriver. Parce que ce qui est intéressant, c'est que tout se passe du point de vue des enfants, de la jeune Camille. Bon, donc forcément, elle a 14 ans, c'est quand même pas... enfin, ça, comme... oui, c'est ça, ça se déroule sur plusieurs mois, plusieurs années, donc ça commence quand elle a 12-13 ans, et moi, on voit son anniversaire dès 14, mais voilà, le truc, c'est que... Enfin, c'est un sujet compliqué. Quand t'as 14 ans et que t'es face à une situation pareille, tu sais pas directement ce que tu vas faire, ce que tu peux faire, c'est parce que tu te rends pas toujours compte de ce qui se passe non plus, donc voilà,
des c'est parents, compliqué. Hein,
donc je me rends bien compte que la critique que je fais au film est assez, assez délicate, mais voilà, je... d'un point de vue purement cinématographique, à un moment, voilà, ça m'a un peu gêné. Ce qui fait que j'adore pas complètement le film. Ça m'a laissé un peu
mais est-ce qu'au moins
de marbre par moment. Mais...
La fille qui joue Camille, que, la jeune qui dirige le film, en fait, elle fait bien le travail ou
La jeune Céleste Brunkel, c'est une superbe révélation, je trouve. Elle est incroyable dans le film. Elle tient tout le film sur ses épaules. Alors les adultes sont très bien aussi, hein. Daroussin, c'est lui qui fait le personnage qu'on appelle le berger, qui est donc le responsable de la communauté.
C'est, c'est le maire des Misérables, mais dans version éblouie.
Ouais, celui qui endoctrine, hein. c'est
le
ça.
Le big boss.
Hein. Camille Cotin est sensationnel aussi. On l'a jamais vu dans un rôle aussi... aussi...
Enfin, premier degré.
Vu aussi froide, aussi... Oui, c'est très premier degré, évidemment. Voilà, pourtant je l'ai vu dans pas mal de choses, mais à ce niveau-là, jamais. Et Eric Caravaca, qui joue le père de famille, est génial aussi. Et c'est limite un des personnages les plus intéressants, et c'est dommage qu'on le voit peut-être pas plus que ça, parce que c'est lui qui, au début, met certaines limites, en fait.
Du coup, Thierry, oui, mais non, quoi.
Par exemple, avant qu'il rejoigne la communauté, une des premières choses que le berger dit, parce que la famille a juste été à quelques animations, des trucs, voilà, des trucs un peu extérieurs, mais elle a déjà émis une certaine volonté de vouloir rejoindre la communauté. Et le berger dit, voilà Camille, tu dois arrêter de l'école du cirque parce que tu dénigres, tu dégrades, enfin c'est dégradant pour ton corps. Donc voilà, il faut que tu arrêtes, sinon vous ne pourrez pas rejoindre la communauté. Quoi. Donc direct,
attends, bam, mais qu'on soit d'accord, Camille qui fait du cirque, c'est la fille. C'est
la, oui,
c'est
la fille, pas la... bien sûr. Okay. Ouais. Donc voilà, directement déjà, tu te dis... Et là, le père, il dit, mais non, enfin, tu vas pas, elle va pas arrêter l'école du cirque
parce qu'on rentre. Vit ici, quoi.
Ouais, voilà, ça. Parce qu'on veut rentrer dans la communauté. Mais c'est hyper important pour le personnage de la mère. Et donc, la jeune Camille va céder à cette demande.
Pas trop le choix, quoi.
Mais voilà, donc au début, le personnage du père a un peu plus de distance, un peu, il est encore un peu connecté à la
réalité.
Challenge
un peu, quand même.
Plus que la mère qui est rapidement partie dans un trip... assez loin.
Bah écoute, ça m'a l'air, allez, relativement intéressant. Qu'est-ce que tu donnes comme note par rapport à ce film-là, du coup, même si c'est un peu plat en deuxième partie mais...
Bah j'ai mis 1. Ça pourrait aller à 2 quand même, parce qu'en fait, plus j'en parle et plus pense maintenant...
Ça n'a pas l'air si mauvais que ça. Enfin, 1, c'est pas nul.
Non,
non,
mais je n'ai absolument pas dit, et je ne le dirai pas, que c'est un mauvais film, loin de là. Hein. Il ne m'a pas complètement passionné. Même si, voilà, visiblement, bon, je l'ai vu il y a que quelques heures, hein, seulement. Donc,
il faut que tu digères.
C'est encore assez frais. Mais effectivement, c'est assez, assez riche et lourd comme sujet. Donc, non, je vais quand même aller à 2 étoiles, c'est vrai.
En tout cas, tu m'as intéressé, je vais le rattraper, figure-toi.
Mais écoute, tu as la possibilité de le
faire. J'ai la possibilité de le faire, tout à fait. Ok, donc 2 étoiles pour Les Éblouis. Voilà nos 3 films de la semaine, du coup.
Qui aurait pu s'appeler Les Illuminés. Hein.
C'est ça, mais bon, ce serait un peu too much.
Non. Mais non, du coup, je trouve que le titre est... judicieusement choisi.
Oui. La Reine des Neiges 2, 2 étoiles. Les Misérables, 3 étoiles. Et Les Éblouis, 2 étoiles. C'est ça, les 3 films de la semaine. On parcourt vite les sorties cinéma de cette semaine et celles de la semaine prochaine.
Il y a L'Art du mensonge, The Good Liar, que malheureusement j'ai raté.
De Bill Condon.
Ouais, avec Helen Mirren et Ian McKellen. Ça promet.
En tout cas, c'est un casting assez, assez particulier. Hein. C'est sûr qu'on est dans...
Ah bah, ça donne envie.
Dans un affront, enfin, je sais pas s'ils s'affrontent, mais en tout cas, c'est une belle tête d'affiche. Les Misérables, on en parlait, 3 étoiles. Mon nom est Clitoris, documentaire belge.
Ouais.
Pas vu du coup.
Mais qui a excellente presse. Je n'ai eu que de bons échos sur ce film depuis un petit temps, parce que je pense qu'il est un peu tourné en festival aussi, donc voilà.
Oui.
Et je pense que les hommes devraient aller voir ça.
Oui, je pense que le film.
Je pense que c'est un peu éducatif.
Oui, c'est le guide du zizi sexuel. Countdown, film américain d'horreur avec
avec des gens qu'on connaît
avec
pas.
Avec des gens qu'on connaît pas, mais mentir. Un concept vraiment typé américain. C'est et si vous saviez quand vous allez mourir. Ouais. T'as une application, il est marqué 14h52. Ouh merde.
Et voilà. Il essaie de tout faire pour pas
pour ne pas mourir à 452 oui. minutes, mais quoi qu'il arrive.
Je l'ai pas vu, mais avec petite sortie entre amis, ça peut être sympathique. Je pense.
Oui, je pense que c'est le. C'est... On n'est pas dans les films Oscar là. Ouais. Les Éblouis, on vient d'en parler. 2 étoiles suite à la critique de Thibaut, qui est au fur et à mesure de la critique de plus en plus positive.
Mais en tout cas, une
bonne impression, des points négatifs, mais clairement un sujet intéressant pour un premier film. Pas 100% maîtrisé, mais quoi qu'il arrive, intéressant, si pas casse-gueule, parce qu'il
ouais.
y a un lien avec la religion.
En tout cas, c'est de bon augure.
Un peu bizarre. La Reine des Neiges 2, Frozen, la suite, c'est donc 2 étoiles. Joyeuse Retraite, un film avec Michel Larocque et Thierry Lhermitte, on l'a pas vu volontairement. Et enfin, un documentaire belge sur la bière, et ça je regrette de ne pas l'avoir vu quand même parce que c'est mon rayon, de Frédéric Mosser. Friedrich Mosser, donc on est au nord du pays sans doute, même pas sans doute parce que le titre c'est Beer pour être plus concret.
Ouais.
Donc voilà les films de cette semaine-ci au cinéma. La semaine prochaine, je propose qu'on fasse un petit tour.
Ben, on va vous parler de Knives Out et on a interviewé Ryan Johnson, son réalisateur.
On n'aura pas Ryan Johnson dans le podcast. Et le film Knives Out, si vous avez fait un tour sur notre chaîne YouTube, vous avez peut-être déjà entendu notre avis sur le film, mais on vous le redonnera à chaud ou à froid.
Ouais.
Mais l'idée, c'est de parcourir ça plus en longueur et de vous parler de ce film Cluedo,
oui.
qu'a réalisé Ryan Johnson.
Tout à fait. On parlera aussi de Marriage Story, qu'on a vu à Venise, de Noah Baumbach, qui sort dans nos salles aussi.
Film
Netflix.
La semaine prochaine. Oh, je suis content.
Mais qui sort, dans nos cinémas. On a de la chance.
C'est pas mal, ça. Une belle semaine. Noah Baumbach, ouais. donc Adam Driver, S.K. Johnson, un excellent film dont on vous avait parlé à l'occasion du Festival de Venise.
Ouais.
Et on en reparlera la semaine prochaine.
Et on parlera aussi de Proxima, d'Alice Winocourt, film qui emmène Eva Green dans l'espace. Voilà, qui était passé au TIFF à Toronto et qui sort maintenant dans nos salles. Voilà.
Voilà, on aurait pu vous parler
d'autres
aussi
sorties.
Toute ressemblance avec Jérôme Commandeur et Franck Dubosc, mais non plus.
Pas vu, de toute façon.
Et, juste alors une question, est-ce que on aurait eu l'occasion, tu crois, de voir Last Christmas ? Non, hein.
Je l'ai loupé.
Ah, ensuite alors. Mais bon, c'est pas grave. À part si quelqu'un vient d'en parler.
Sauf si j'arrive à le rattraper. Peut-être si je le rattrape d'ici là. Mais
est-ce que ça en vaut la peine, c'est la question.
Écoute, il y a Emilia Clarke. Moi, j'ai envie de voir ça.
Emilia Clarke et Emma Thompson.
Puis c'est Paul Feig qui réalise quand même.
Oui. C'est pas... Mais la bande-annonce fait peur quand même. Faut le dire. Donc voilà le programme de la semaine prochaine. On se retrouvera donc la semaine prochaine.
On
vous souhaite une excellente semaine. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et de vous être abonnés aux différentes plateformes de streaming.
Et on fait des bisous.
Des bisous.